Je suis une fille racialement mixte, native et trans.
Tatiana Kalanyopa Yang.
Je suis née en 1982. Mes parents font partie des classes populaires.
Docteur en anthropologie à l'université de Hawaï.
Je descends à la fois d'un héritage hawaïen, chinois, allemand et irlandais.
Militante antiraciste et anticoloniale.
Mais quand on me demande comment je m'identifie, je réponds simplement que je suis hawaïenne.
Emprisonnée à Olympia, dans l'état de Washington, au début des années 2000.
In 1893, armed U.S. naval forces helped American sugar plantation owners overthrow Hawaii's queen.
They took our language.
The coup d'état had the backing of a group of U.S. Marines.
They took our land.
President Eisenhower congratulates the new congressional representatives of Hawaii.
They took our identity.
Genocide. That was their intent, to make life hard for us in such a way it would cause our own destruction. And that's what happened. It's still happening. It's more passive.
They really succeeded. It's taking our will to live.
La lutte pour l'autodétermination hawaïenne ou sa souveraineté face à l'occupation militaire continuelle des US est en perpétuelle évolution. En particulier, les mouvements internes pour l'indépendance à Hawaï transforment et sont transformés par la façon dont les personnes incarnent des politiques et des histoires émergentes, mais aussi des idées en évolution à propos de la race, du genre et de la sexualité, comme des notions affectives d'appartenance et de territorialité. En 1989, à l'âge de 7 ans, j'ai regardé sans rien pouvoir faire des officiers de police blancs arrêter ma mère, une femme de couleur, sur des soupçons de contrefaçon. Malgré mes cris et mes tentatives désespérées de résister à l'arrestation, ma mère me fut violemment arrachée des bras et mise dans une voiture de police alors qu'elle essayait de payer le loyer. À l'époque de l'arrestation, mon père servait à l'étranger comme membre actif de l'US Army. Mon cousin Jacob, un enfant de la plus jeune sœur de mon père, est devenu mon meilleur ami et nous étions comme frères et sœurs. Nous avions le même âge et étions trans, queer tous les deux. En 1994, à l'âge de 11 ans, quand j'ai déménagé de Hawaï jusque dans l'état de Washington avec mes parents et mes frères, je suis restée en contact avec lui. Ensuite, en 2000, voulant échapper à l'épidémie grandissante d'addiction à la meth de Wayne ainsi que la saturation touristique et industrielle, Jacob est venu à Washington avec peu d'opportunités. J'ai été capable de lui trouver un job avec moi dans une maison de repos. En 2001, il a commencé à négliger son sens des responsabilités. Un jour, il ne m'avait pas rendu ma voiture après l'avoir empruntée pour une soirée et la rendre le lendemain matin, je me suis mis à sa recherche. Quand il n'est pas venu, le manque de moyens de transport et donc la perte de mon boulot m'importa moins que sa sécurité. Quand je l'ai finalement retrouvé dans la soirée dans l'appartement de son copain, il était bourré et défoncé, gavé de mes leçons de responsabilité collective et de confiance. Les choses ont dégénéré. J'ai dû le courser dans l'appartement pour récupérer mes clés. Personne ne fut blessé et rien n'a été cassé. Jacob riait tout du long. Pourtant, à cause de ces événements, la police est arrivée plus tard à la maison de mes parents pour m'arrêter.
Les officiers de police ont chargé le dossier. Le propriétaire blanc de l'appartement, un copain mutuel, a été poussé par les policiers à déposer une ordonnance restrictive contre moi. J'ai pris un commis d'office, comme je n'avais pas les moyens de me payer un avocat privé qui m'a encouragé à négocier ma peine. Je ne comprenais alors pas complètement la sévérité des charges qui étaient retenues contre moi. En plus de ça, mon commis d'office n'a pas agi dans mon meilleur intérêt. J'ai été accusée de cambriolage de second degré, un crime. Le rapport officiel dit que je suis entrée dans un foyer sans permission avec l'intention de voler ou de commettre une agression. Les circonstances atténuantes, incluant les faits personnels et intimes de l'affaire, ont été effacées du dossier officiel de la police et de la justice. En un mot, j'ai été poussée à travers le système de justice criminelle sans avoir la force ou le soutien pour contester le cadre légal de mon dossier.
Après mon arrestation, j'ai été emmenée au centre pénitentiaire de Johnson County à Olympia, Washington. On a pris mon nom, mes empreintes, on a fouillé mes cavités, on m'a forcée à enlever le rembourrage de mon soutien-gorge nu devant plusieurs hommes blancs. Les officiers de police et les matons étaient incroyablement brusques, faisant passer le processus d'entrée d'inconfortable à insupportable. J'imaginais qu'après m'avoir écouté, les officiers, étant sains d'esprit et de jugement, reconnaîtraient les erreurs de leur manière et me laisseraient partir. À la place, j'ai été placée en quartier d'observation pendant 20 jours. Le quartier d'observation, selon un garde, était réservé aux délinquants, les malades mentaux et les personnes avec des besoins spéciaux. J'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange à propos de la nature de l'incarcération en particulier, son imposition sur les esprits et sur les corps des détenus, qui en incite un certain nombre à prendre une responsabilité personnelle pour un système défaillant qui dépasse leur contrôle, un système construit en cachant à la vue les limites institutionnelles, historiques et matérielles au choix personnel. Je me rappelle mon compagnon de cellule qui se blâmait lui-même d'être pauvre et d'être incapable de trouver un emploi pour aider sa famille. Un autre détenu s'en voulait d'avoir une grave dépression. Dans ses découvertes récentes, le Bureau des affaires hawaïennes observe que les Hawaïens représentent 39% de la population carcérale de l'île, alors qu'ils ne représentent que 24% de la population générale. Sous la règle coloniale, les corps genrés et racialisés sont assignés à des rôles spécifiques pour maintenir l'état moderne du capitalisme et sont séparés des traditions indigènes de rapport à l'autre et au monde. En conséquence, l'aliénation des corps racialisés et genrés conditionne les agents gouvernementaux et privés à surveiller ces populations comme si nous étions une menace intérieure à la sécurité nationale. Implicitement, nous sommes marqués par le système carcéral comme un stock de chercheurs de vengeance recherchant l'exacte même revanche que les torts du passé, des personnes qui ont un besoin naturel de contrôle, de discipline et de paternalisme. Pour combattre ces clichés surdéterministes et réductifs, il est important que nous continuions à partager nos histoires, à dire nos vérités et à rendre visible l'interconnexion des articulations entre nos luttes, tout en laissant de la place pour la reconnaissance de nos vécus personnels, de nos différences, de nos histoires, de nos expériences vécues et de nos traditions culturelles.